Bienvenue à la French Connection, premier épisode de l'automne. On recommence les enregistrements réguliers. Je commence avec Damien.
Salut tout le monde! L'automne, on commence déjà à avoir des champignons sur le bout du nez.
C'est la rentrée, mais pas des champignons, pas ici. Bon, on va commencer justement avec des sujets qui sont en rapport avec la rentrée. Nous, au Québec, on a déjà vécu la rentrée. Vous, en France, ça va commencer incessamment. Donc, il y a quand même certaines informations importantes à tenir en compte avec la rentrée scolaire.
Oui, je te confirme. Et bonjour à tous. Donc, je trouvais intéressant quand même de revenir un petit peu sur nos rentrées scolaires, hein, parce que c'est effectivement nos enfants, hein, nos gosses, comme on dit en France, mais pas au Canada, qui viennent d'intégrer les écoles, qui viennent d'intégrer collège, lycée et autres niveaux. Mais aussi nous parents, parce que qu'on veuille ou non, la rentrée, c'est aussi le moment où l'année scolaire reprend, donc association, documents administratifs. Et je trouvais intéressant quand même qu'on revienne un petit peu sur faites attention aux données que vous diffusez et comment vous les diffusez. Parce que même si c'est une école hein, qui est fort sympathique, avec des enseignants dans tous les cas professionnels et aussi fort sympathiques, eh bien ces données, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Donc en fait, avec ces différents documents, on a donc pour les associations, pour l'école. Et pour l'école, on va nous demander ici par exemple le nom, nom, prénom. Ça, c'est pas bien grave. Papa-maman, sauf qu'aujourd'hui, on ne dit plus papa-maman. Hein. Ici, on donne d'autres termes. Toujours est-il qu'on a aussi l'adresse postale, éventuellement demande le mail. J'ai vu aussi des demandes, par exemple, de la profession des parents. Je ne vois pas l'intérêt, mais toujours est-il que c'est demandé. Bref, énormément d'informations qui peuvent être réclamées et qui ne peuvent ne pas être remplies sur les fiches. Vous pouvez mettre un petit mot dans le cahier en disant au professeur, pour des questions de sensibilité d'information, je n'ai pas envie de fournir mon emploi. Ce n'est pas une obligation, faut-il le rappeler. Après, il y a des documents qui sont administrativement parlant obligatoires. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Hein. Un élément important, c'est aussi pour les associations. Très important, on voit des données réclamées avec une totale non-maîtrise. Hein. Mais c'est impressionnant, parce qu'ils ne sont pas formés. Je leur en veux pas, mais ils ne sont pas formés pour. Ils ne sont pas éduqués pour non plus. Mais quand on vous demande nom, prénom, adresse, profession, numéro de sécurité sociale, pourquoi faire ? Nom du médecin, le mail, l'adresse web, plus plein d'informations comme des photos, et qui sont placées sur des bouts de papier avec un coude agrafeuse, avec un petit scotch, mises dans une boîte, dans un tiroir parfermé à clé, accessible à tout le monde nuit et jour. Voilà, faites attention parce que ces données-là peuvent être récupérées. Alors certes, les pirates que nous, on connaît en informatique, n'iront pas fouiller obligatoirement toutes les associations de votre quartier. Non. Mais dites-vous que ces papiers peuvent éventuellement finir dans une poubelle. Et cette poubelle peut devenir, du coup, un élément de fuite d'informations, quel qu'il soit. Je rencontre encore beaucoup de gens qui pratiquent cette science de l'étude de la poubelle, qui sont capables de cartographier l'intégralité d'une maison, d'un immeuble, donc d'une association pour connaître qui était membre l'année dernière avec toutes les informations qui ont pu être fournies, comme éventuellement le RIB, comme éventuellement la pièce d'identité. Il n'y a pas très longtemps encore, une association dans les Alpes, donc c'est dans le sud de la France, côté montagne, cette association récoltait carte d'identité et permis de conduire pour un marathon. En réfléchissant un peu, c'était très certainement pour ceux qui allaient faire le contrôle, la sécurisation des routes. Mais ces données, le marathon, une fois terminé, les données n'ont strictement déjà rien à faire sur Internet, mais surtout, elles y sont encore. Ah oui, petit détail, ces données sont là depuis 5 ans. Donc voilà, c'est un élément que je trouve important à réfléchir en famille, mais aussi ne pas hésiter à en parler au sein de l'association, en disant, ben voilà, on pourrait mettre ensemble déjà, est-ce que vous avez pris en charge ce genre d'informations ? Est-ce que vous pensez que c'est important ? Moi, je pense que oui, pour vous, votre intégrité de l'association et la mienne, numérique ou autre, parce que de plus en plus aussi de gens numérisent. Je connais énormément d'associations qui numérisent les données parce que c'est beaucoup plus simple, et ça je le comprends, ils le mettent dans l'ordinateur. Pour la petite histoire, au moment où on enregistre, ici à Lille, c'est la braderie de Lille. C'est la plus grande braderie, marché aux puces, vide-grenier d'Europe. C'est aux alentours entre 2 et 5 millions de visiteurs sur 2 jours. J'ai acheté encore une fois des disques durs, entre 1 et 3 euros, sur lesquels, dont une association était en train de revendre son ordinateur découpé. J'espère juste qu'ils ont vidé correctement les disques durs. Voilà.
C'est loin d'être sûr qu'ils ont vidé.
Ben, je vous tiendrai au courant pour le prochain podcast. Dans tous les cas, s'ils n'ont pas vidé, je sais qu'ils sont, parce qu'en discutant, j'ai pu faire du social engineering, hein, et donc étudier et surtout récupérer le nom de l'association, sa ville, et le nom du patron, en tout cas, la personne qui vendait le matériel. si des informations sont dedans, je vais tout de suite les alerter. Mais voilà, aujourd'hui, les fuites de données, ce n'est pas que ces dangereux pirates russes de la Corée du Nord ou tout simplement américains, canadiens ou français. Non, c'est tout. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi une éducation qu'on doit donner à nos enfants, une éducation qu'on doit nous-mêmes avoir. Et donc, du coup, bon, bah, nous, hein, Nicolas, nos autres amis et moi-même, on a notre bâton de pèlerin. Hein, on aime le rappeler. Mais franchement, il faut vraiment le prendre au sérieux aujourd'hui. Hein. Je prends l'exemple au Canada avec Desjardins, mais on prend les États-Unis avec la banque. On prend ici en France avec plusieurs grandes écoles cet été qui ont eu des fuites de données simplement pour des questions soit d'erreurs informatiques ou une grande école informatique de la région parisienne qui s'est retrouvée avec un corbeau qui, lui, a diffusé un nombre que je considère moins intolérable d'informations concernant les élèves. On n'en sait pas plus. Hein. Cette personne a conversé un tout petit peu sur Twitter et depuis a disparu. Il y a de fortes chances qu'il ait été alpagué, peut-être, hein, ou il a simplement coupé les ponts. Mais il nous expliquait une fois que c'était un ordinateur perdu, une fois qu'il avait collecté à droite à gauche, toujours est-il que voilà, toutes ces données, c'était des élèves, entre autres. Mais pensez aussi à vos parents. Pensons aussi à nos grands-parents, nos aînés qui vont dans des associations diverses et variées. Voilà. Je pense que la cybersécurité, ce n'est pas que des milliards. Hein. Ce n'est pas que des gens en costume-cravate dans des salons. C'est aussi et avant tout des gens qui doivent discuter, qui doivent jouer l'humain. Et l'humain, ça commence avec nos amis et nos familles.
Ouais, pour descendre ça très bas, il faut ramener ça avec justement, tu me dis l'humain, mais la sensibilisation du public en général. Puis ça, je dois dire que dans mon environnement, on a un peu de difficulté à rendre le message jusqu'aux gens normaux qui ne sont pas familiers avec ces notions-là et à quels ils vont prendre des risques qui des fois sont mal mesurés parce que connaissent mal qu'est-ce que c'est. Mais en même temps, je pense que tu m'avais déjà dit, puis j'ai commencé à adhérer à ce genre de choses-là. Sur ces 10 formulaires-là, tu injectes un certain nombre d'informations qui te permet de repérer d'où arrive une fuite s'il y a fuite.
Ben, c'est exactement ça. Et en fait, l'idée m'est venue il y a très, très, très longtemps où j'avais eu en main des fiches cartonnées, et ça existe encore hein, pour les élections, par exemple aux États-Unis, où on doit faire des petits trous ou cocher pour des élections. On coche le shérif, on coche le maire, on coche le député, etc., etc. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un document, et je le fais aussi, par exemple, dans un garage, hein, dans lequel je vais mettre ma voiture, dans lequel on me demande ma carte grise, hein, c'est la pièce d'identité du véhicule, et bien dessus, je mets des espèces de petits points comme du morse. Par exemple, dans les hauts, j'ai un concessionnaire voiture que j'ai été visiter dernièrement pour la révision de mon auto, eh bien, il me demande la pièce d'identité de la carte grise qu'il va scanner. OK, c'est la loi, etc. Lui, il s'en sert, peu importe. Ben, j'ai été très clair. Hein. J'ai dit, est-ce que je peux voir cette photocopie parce que je vais la signer, la dater, et comme ça, je sais que ça vient de chez vous parce que peut-être que vous allez la garder précieusement dans un coffre-fort, fermé à clé, entouré de barbelés, avec des chiens qui feront que mes données sensibles ne seront pas volées par un malveillant qui est intéressé par ce genre de données. Je troll, mais on est à la limite de ça parce que eux, ils le scannent. Le scan va dans l'ordinateur. Que font-ils de papier? Ah, ils le mettent peut-être dans un dossier. Je ne pense pas qu'ils gardent 50 ans de dossier. Donc, ça veut dire que peut-être que ces papiers, dans ce garage, et ça, je l'affirme, ils ne les broient pas, les papiers. Donc, ça va finir obligatoirement dans une poubelle. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a l'information et qui connaît ce garage, il ira peut-être fouiller les poubelles. Mais ensuite, les informations scannées. Ah, c'est dans un ordinateur acheté dans n'importe quel magasin avec un superbe NAS que lui a vendu une boutique spécialisée en informatique. Sauf qu'il n'est pas informaticien, mon garagiste, aussi sympathique et aussi professionnel soit-il. Et peut-être que ce NAS sera pris en otage par un ransomware. Et peut-être que lui, parce qu'il va vouloir payer, va dire « Je vous envoie un fichier pour me prouver que vous sachiez correctement déchiffrer mon fichier. » Et « Oh, flûte, c'est mon document à moi. » Ou c'est le document de peut-être quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, quelqu'un va avoir accès au NAS. Parce qu'il va prendre Shodan et, oh magie, l'IP m'envoie sur le NAS qui n'est pas protégé par un mot de passe. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas de la science-fiction, et Nicolas pourra vous le dire. C'est des choses qu'on peut malheureusement vivre tous les jours. Et donc, moi, sur mon document, eh bien, par exemple, pour ce cas-là, il avait des O dans mes mots. Hein, je ne sais pas, moi, si je prends depuis plusieurs semaines sur les entreprises de santé, eh bien là, j'avais un certain nombre de A. Hein, je vous ai pris cet exemple de cette phrase que je viens de lire devant mes yeux. Eh bien, dans mon cas, tous les O, je les ai noircis. J'ai mis un petit pouce, j'ai noirci les O, mais j'en ai noirci pas tous les O. Je ne suis pas non plus malade, hein, il faut pas, j'ai pas que ça à faire. Non, pour son cas, lui, j'ai noirci 12 O. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, c'est simple. Si jamais les documents qui sont jetés à la poubelle ou scannés sont volés et réutilisés sur les internets sous leur forme, bien sûr, d'origine, eh bien, je vais dire, tiens, 12O, avec une information que les pirates ont peut-être enlevée parce qu'il n'y avait simplement que les miennes qui étaient intéressantes à la revente. Eh bien, du coup, moi, je l'ai pris en photo, ce document. Hein. Et donc, je sais que le document avec 12O appartient au garage X. Alors, OK, c'est un peu paranoïaque. OK, c'est une véritable gestuelle intellectuelle de se dire « Ouais, mais je vais pas prendre 10 minutes pour faire ça. Ben, » Je préfère prendre 10 minutes et me dire « Cette information, si elle disparaît, je suis capable de savoir la source d'origine en 15 secondes que de me dire un jour, dans 3 ans, dans 6 mois, « Oh là là, mais c'est mes données en scan. Mais ça vient d'où, ça ? Il est trop tard. » C'est des pistes que je mets en place. Il suffit d'inventer les vôtres, hein, mais voilà, il faut malheureusement watermarquer, hein, clairement marquer tous ces documents, notre pièce d'identité, notre passeport, nos documents, comme je vous disais, la carte grise de la voiture, peut-être une facture, peut-être votre facture de loyer, votre facture d'électricité, qu'on vous demande parce que c'est des informations qu'on doit fournir à la banque ou je ne sais trop à qui. Watermarquez-les, parce que si jamais ça fuite, et je l'espère pas, hein, heureusement on a aussi en face de nous des vrais professionnels qui sécurisent tout ça, mais on va pas se voiler la face, il y a un professionnel pour 10 petites PME, PMI dont c'est pas le boulot, est-ce qu'on peut comprendre, et qui sont de fuite potentielle de nos informations, donc voilà, aidons les aussi à protéger nos données.
Ben, c'est une très bonne idée, de toute façon j'ai adhéré à ça depuis que tu m'en as parlé, parce que j'ai commencé aussi à marquer mes documents et à mettre des watermarkés, comme tu dis, des choses comme ça. Et à la limite, ça peut aider les corps de police à remonter jusqu'à la fuite où elle est partie, parce que des fois, ça peut être très difficile. Et dans les fuites de données que tu m'as données, je pense au début de l'été, on en a une qui fuite encore. On n'a aucune idée d'où ça arrive, parce qu'il n'y a aucune capacité à retracer la dite information sur le site qui a été piraté et qui continue. Donc, on ne peut même pas aider la compagnie qui est dans le pétrin, qui font se faire fuiter. Et c'est donc en termes d'efforts publics sur la protection des informations de tout le monde, ben cette approche-là nous permet d'augmenter l'effort et l'efficacité à laquelle on peut limiter les dommages qui sont liés avec ces petites fuites d'informations, même si le RGPD peut venir nous mordre par en arrière ensuite. Oui.
Ah, c'est intéressant ce que je viens de dire, ce que je viens de repenser. On a un super chocolatier pas très loin de là où je vis, du côté de Lille, donc dans le nord de la France, hein, pour nos amis qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Mais plus sérieusement, mon chocolatier a fait, on avait discuté un petit peu parce qu'il rentrait les fiches clients, hein, nom, prénom, adresse, date de naissance pour les anniversaires, etc. Et il a pris mon idée de watermarquer ce genre de fichier, mais surtout de mettre un honeypot dans sa base de données. Donc, il a créé un fichier, alors je ne vous dirai pas le nom, bien sûr, hein, mais à deux, on a créé une fausse identité qui fait que si jamais, malheureusement, elle sort, on sait qu'elle vient de chez lui. C'est aussi un moyen pour ce genre d'entreprise de se protéger, parce qu'on est, on le sait, hein, la sécurité informatique à 100% n'existera jamais, on n'est jamais à l'abri d'une perte, d'un vol, d'un détournement, d'une lecture non autorisée, mais au moins, c'est une autre forme de watermark côté professionnel. Donc voilà, merci Nicolas de me l'avoir refait penser, mais voilà, c'est des petits éléments. La cybersécurité, moi j'arrête pas de le dire depuis 25 ans, hein, c'est l'affaire de tout le monde, et c'est tous ensemble, voilà, main dans la main, professionnel ou non, voilà, c'est aussi ça qui est important. Et c'est pour ça que l'aspect humain, nous, on n'arrête pas de le dire. Hein. Tiens, un petit détail, c'est très intéressant d'ailleurs. Au FIC, le Forum international de la cybersécurité qui a lieu donc en 2020 à Lille, hein, au mois de janvier, l'angle cette année, c'est l'humain. Eh bien,
on va peut-être y arriver à un moment donné à faire quelque chose de ce côté-là. Passons à la nouvelle suivante qui est dans ce cas-ci les effets un peu, ou en tout cas qui est en lien avec une recherche et les choses dans lesquelles tu as trouvé par rapport à un rançon logiciel dans lequel tu as réussi à sortir de l'information fort utile et qui est quand même fascinante.
Alors, on parlait de l'humain, là. Vous avez vu cette transition de professionnel, c'est pas beau. On n'arrête pas de parler des ransomware, vous savez, ces logiciels de chiffrement malveillants lancés par des pirates et des escrocs vous allez comprendre pourquoi je les différencie. Et qui, donc, du coup, prennent en otage ordinateurs, fichiers, serveurs, cloud, disques durs, NAS, etc., etc. On ne cesse d'en entendre parler. Hein. Je vais vous prendre les derniers exemples en date. En France, on a, par exemple, une immense entreprise professionnelle dans son corps de métier qui s'est retrouvée, alors ce sont des professionnels, ils ont plusieurs cliniques, quand je dis plusieurs, c'est des dizaines de cliniques en France, et ben c'est simple, un ransomware a tapé un samedi matin à 3h son informatique et ça a été l'enfer. Un exemple, aux États-Unis, dernièrement, ce sont des cabinets dentaires. Les dentistes se retrouvent avec leur NAS HS parce que le fournisseur de cloud s'est fait attaquer par un ransomware. Donc ça, des histoires comme ça, on en entend parler malheureusement tous les jours. Et encore, on entend parler de ce qui est rendu public. Et moi, donc, je vous parlais d'humain, donc je vais raccrocher un peu mon idée, c'est que le dernier en date, très connu, il s'appelle Revil, E-R-V-I-L, ou aussi connu sous le nom de Sodinokib, il date pas d'hier, hein, 2016 celui-ci. Hein. C'est celui qui attaque en ce moment d'une manière assez radicale. Pourquoi ? Parce qu'il ne passe pas que par mail, il ne passe pas que par le peer-to-peer. Il passe aussi en exploitant des failles informatiques, dont une qui appartenait à Oracle, hein, d'ailleurs, qui a été corrigée depuis, hein, mais qui, semble-t-il, tout le monde n'a pas pris en compte le patch. Hein, c'est bien connu, hein, un patch, ce n'est pas utile. Une rustine, en tout cas, une mise à jour ne sert strictement à rien, la preuve. Juste l'exemple de ces, justement, dentistes. Alors, pourquoi je vous parle de ça et de l'humain ? Eh bien, dans le cas de cette attaque de ransomware, les pirates en face, les escrocs et les développeurs sont clairement pas des débutants. Alors d'abord, je vous parle même pas des infiltrations et des attaques. Hein. Ça, c'est la première partie, la partie en fait entre guillemets la plus visible de l'iceberg. Moi, je vais vous parler de la partie qui n'est pas du tout visible, celle qui normalement ne concerne que l'escroc, le pirate et son développeur et les victimes. Alors, en gros, c'est simple, hein, c'est le ransomware Sodinokib, Revil. Eh bien, quand les gens se font infiltrer, se font infecter, ils reçoivent dans l'espace, l'appareil infecté, un message texte qui lui dit pigeon, piégé, bonjour, très poli, il va falloir payer maintenant. On te demande entre 2000, alors les cas que j'ai vus, entre 2500 et 3000 $ pour récupérer tes fichiers. Pour ça, voilà une adresse sur Tor. Rejoins-nous, tu devras taper un petit code qui me permettra de savoir que c'est toi, pigeon 1, que j'ai bien alpagué. Il y en a beaucoup, il y en a des milliers, des dizaines de milliers de pigeons. Vous allez comprendre pourquoi je le sais. Et donc voilà, et tu viens. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, depuis le mois d'avril, depuis où ça commence vraiment à être violent et que les gens commencent à en converser parce que beaucoup d'entreprises, de PME, petites et grandes entreprises, ont commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les forums, eh bien, je suis allé visiter toutes les pages de rançonnage. Vous allez me dire, ça sert à quoi ? Eh bien, dans ces pages de rançonnage, en fait, vous avez quoi ? Vous avez le chat. Vous avez un chat. Illégal propose un chat entre eux et les victimes. Alors au départ, et je pense que vous pensez exactement la même chose, vous allez me dire, ouais, son chat, c'est un bot, c'est un robot. Le robot, il va simplement converser avec le mec qui va dire, au secours, comment je fais pour payer ? Et le bot, il voit le mot payer, il va simplement fournir des phrases bateau. Sauf que j'ai collecté énormément d'adresses et qu'à chaque adresse, j'ai lu les conversations. Je peux vous dire que toutes les conversations étaient différentes. Alors, je mens. Certaines conversations étaient totalement identiques parce que quand les mecs disaient « je fais comment pour payer ?» l'escroc, le pirate ou son développeur, vous avez vu, hein, je suis en train déjà de vous expliquer qu'il y a vraiment plusieurs personnes derrière, donnaient toujours les mêmes phrases quand on disait « je veux payer ». Mais quand des gens commençaient à venir râler, commençaient à dire « j'ai des enfants, putain, vous n'en avez pas d'enfants, vous n'avez pas de pitié », je peux vous dire que les conversations et les phrases étaient totalement différentes avant d'être bannis. Parce que les gars, une fois qu'ils sentaient que la conversation n'était pas possible, dans tous les cas, ils n'avaient pas envie, quand je parle des gars, c'est les malveillants, hein, et ils les bannissaient. Ils bannissaient celui qui venait se plaindre. Alors le bannissement, ce n'est pas « ah ben du coup, tu ne peux plus déchiffrer ». Ah non, 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 le bannissement, c'était à la base, vous deviez payer 3000 $, le bannissement doublait la somme. Dans les textes que j'ai pu récolter, copier, suivre dans les conversations, il y a un mec, mais ça a été... Pardon, ça me fait encore sourire, mais c'est terrible. Hein. Le gars commence à leur dire « Bon, voilà, je suis un jeune informaticien, j'ai pas d'argent, vous acceptez 500 $ 400 $ » Et les mecs en face, ils lui ont dit tes 400 dollars, on n'en veut pas. On t'a demandé 6 000. Ah oui, parce qu'on vient de doubler. Avant, c'était 3 000. T'es venu te plaindre, c'est 6 000 maintenant. Et si tu payes pas dans 7 jours, ça sera 12 000. Le mec a commencé à les insulter. Boum, banni. Du coup, la somme, elle est passée à 24 000 dollars. Parce que chaque bannissement, ça fait doubler la somme pour déchiffrer les fichiers derrière. Alors, je suis tombé sur des chats où des gens ont payé. Et comment je le sais? Bah, c'est simple, quand j'allais sur le chat, en fait, ils avaient le lien qui permettait de télécharger leur propre programme qui allait permettre de déchiffrer les fichiers pris en otage. Alors, je ne vous cache pas que certains ont dû particulièrement bien flipper parce que tous les antivirus le détectent à 15 km, hein, le ransomware. Hein. Alors, le problème, c'est que dès que vous téléchargiez le fichier pour déchiffrer les fichiers rançonnés, et puis les antivirus l'effacaient. Bah oui, pour eux, c'est un ennemi, donc du coup, ils faisaient leur boulot. Le truc de fou furieux. Dans les autres messages qui, moi, m'ont complètement fait halluciner, c'est un gars qui... Alors, j'en parlerai ça après, hein, des social engineering et autres sociétés d'audit en sécurité informatique, ou peut-être des gens piégés qui ont tenté le social engineering. C'est pour ça que je vous dis qu'en face, on n'a vraiment pas affaire à des pingouins, des manchots, qui vous voulez. En tout cas, les gars, ils ont le cerveau et les mains. Bah, le gars, il dit, bah voilà, moi, je suis au Bangladesh. Donc, il écrivait en bangladi. Hein. Donc, j'ai dû traduire ça en Google. Mais je vous cache pas que les gars, ils en ont eu marre. Ils ont eux-mêmes traduit en direct les messages donc, de cette personne qui se faisait peut-être passer pour un Pakistanais. J'en sais rien. Non, un habitant du Bangladesh, excusez-moi. Parce qu'il y en a tellement eu. Et lui, il m'a vraiment marqué parce qu'il a carrément envoyé son passeport. Le mec, il dit, bah voilà mon passeport, je vous prouve que je suis bien de là-bas. Sauf que quand le gars il dit bah, je vous envoie aussi la photo de ma femme et de moi pour vous prouver que c'est bien moi, alors soit c'est du social engineering de merde, pardon du terme, soit le gars il était vraiment totalement dans un désarroi total que je peux comprendre, parce qu'après dans ses conversations il dit mais attendez, vous me demandez quasiment 3 ans de mon salaire. Alors vous voyez, on sentait que le gars derrière, si c'était un social engineering, il avait bien étudié le territoire, le Bangladesh, les salaires, etc. En face, ils lui ont dit, mais tu te fous de nous? Non, 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 non. 250, alors là, ils demandaient, ouais, est-ce que je peux, pour 250 $, déchiffrer mes fichiers? Les mecs, ils ont dit non. 500 $? Les mecs, ils ont dit, arrête, on te montre où t'es. Et les gars, ils ont sorti tous les logs de cette personne qui se disait du Bangladesh. Et là, on avait une société au Brésil. Ils ont tout sorti, tout. Et là, on se dit... on n'a vraiment pas affaire à des manchots en face. Et les mecs, ils ont tout sorti, la société, les logs, les IP, juste pour détendre en fait le gars du Bangladesh, soyons très très clairs. Et là, bah, ils l'ont banni, et donc du coup, bah, on se doute bien que certainement, il devait payer 3 000 $, il s'est retrouvé avec 6 000. Et bien sûr, dans 7 jours, ça sera 12 000. Enfin voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Et pourquoi je vous parlais de social engineering et autres tentatives de gens qui se disent connaître le sujet ou en tout cas tenter de piéger l'environnement qui est en face d'eux. Justement, si on veut attaquer ou en tout cas parler à ce genre de population, il faut clairement les environnementer. Moi, avant de leur poser véritablement des questions, et encore, ils ne m'ont pas répondu sur tout, j'ai attendu 2 mois pour voir comment ils parlaient, comment ils s'adressaient aux gens, dans quelles conditions ils voulaient véritablement bien répondre, parce qu'il y a des fois où on a vraiment des vrais discours. Et celui qui m'a le plus épaté. Quand je dis épaté, je suis vraiment pas fan, attention, hein. Je suis pas en face de Céline Dion. Merde, je viens de dire que j'étais fan de Céline Dion. Non, c'est un troll, hein. Nicolas est mort de rire. Non, non, mais voilà, c'est pour, quand je vous dis que je suis épaté, c'est, je suis vraiment pas fan de ces gens, hein. Mais c'est juste pour vous dire que leur structure est d'une efficacité redoutable. Pourquoi je vous dis ça? Un gars vient. Voilà, je suis coréen. Je peux vous traduire votre ransomware en coréen. Et le mec commence à converser. Et en face, eh ben, les pirates, les escrocs et le développeur ont aussi conversé avec lui. D'abord, c'est simple, pour la première fois dans une conversation, ils n'ont pas dit non, nope, ils n'ont pas dit tu payes. Ils ont dit oui, on pourrait être intéressé. Et là, la conversation s'engage. Et le gars, en face, leur a envoyé le ransomware traduit en coréen. Et là, parce qu'en plus, dans leur chat, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez me dire, oui, mais donc du coup, ils ont tenté de les piéger, les pirates, en mettant des liens. Ah, non, non. En face, les mecs ont proposé une option qui permet de leur télécharger des fichiers. Que du JPEG, que du texte. Ça se discute. Toujours est-il que j'ai donc pu récupérer, moi, les fichiers texte, les images. J'ai pu tout récupérer. Ben oui, j'étais en train de lire les conversations entre les pirates et les potentielles victimes. Donc du coup, bah, le gars avait traduit le ransomware en coréen. Et donc il a fourni les fichiers textes. Et là, la conversation a commencé à se mettre en place. Le mec, il dit, bah voilà, je vous fais ça gratuitement, et si vous voulez me payer plus tard, me faire une petite gratification, vous pouvez me donner une récompense. What the fuck? Hey gars, t'es en train de converser avec des escrocs qui sont en train de piller je ne sais pas combien d'entreprises. Toi, la seule intérêt que t'as trouvé, c'est de les traduire. Puis attention, hein. Il dit, pour que vous puissiez avoir confiance, je vous l'offre la traduction. Et donc, les gars, au bout de... Alors, je vous cache pas que là, je me souviens plus trop bien. Moi, je vous cache pas que cette adresse, je l'ai trouvée passionnante. Hein. Ils l'ont pas banni du tout, hein. Je vous ai mis les captures écran. Ils l'ont pas banni. Non, ils ont dit, on en reparle dans quelques jours, quelques heures. Donc, moi, vous vous doutez bien que cette page, je l'ai laissée tourner tranquillement dans ma machine. Ça, voilà, j'ai pu lire les conversations. Et ils sont revenus le voir en disant, bah, écoute, non, en fait, du coup, l'anglais nous suffit. On verra plus tard. Et donc, le plus tard, bah, ce que j'ai fait, c'est que 2 mois et demi plus tard, moi, je suis allé les voir et je me suis fait passer pour le coréen. Et je leur ai dit, alors la traduction, ça vous intéresse ou pas? Et là, dans leur conversation, ils ont dit, bah, écoute, mon développeur va venir te voir. Et quelqu'un d'autre est venu ensuite me dire, non, en fait, on n'est pas intéressé. Pour le moment, tout va bien comme ça. Et donc là, je me suis dévoilé. Je dis, en fait, je suis le gars que vous avez banni plusieurs fois parce que à chaque fois, je vous posais des questions à savoir, je peux faire une interview, je peux vous poser 2-3 questions. Et en fait, à chaque fois, pour les watermarquer aussi, je commencerai toutes mes phrases par human or bot. Vous êtes des humains et des bots. Les premières fois, ils me disaient des humains. Les premières fois, les 3-4 premières fois, ils m'ont dit on est des humains dans différents autres comptes, dont souvent des comptes qui avaient été payés. Hein. Donc du coup, j'embêtais pas des gens qui potentiellement pouvaient être coincés, ou alors je prenais des gens dont ça faisait 3 mois qu'ils n'avaient pas du tout repris contact. Donc ça veut dire que depuis 3 mois, ils ont peut-être leur fichier perdu, ou ils ont fait une sauvegarde, j'espère pour eux, etc., etc. Et là, donc à chaque fois, je faisais human or bot, et là ils me bannissaient. Et donc au moment, à l'histoire du coréen, je dis j'arrête de vous poser cette question, mais je voudrais vous poser 2-3 petites questions. Je me présente, voilà qui je suis. Est-ce que ça vous va? Et les mecs m'ont dit oui. Là, je vous cache pas que je suis pas grand, mais je suis tombé par terre. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Alors, je vais être très clair avec vous aussi. J'ai eu droit à 2 questions. Hein. Ça fait pas 3. Mais l'une des simples questions que j'ai pu poser, l'autre, je la garde pour... je la garde. Je leur ai dit, les cabinets dentistes aux États-Unis, ils payent bien? Et là, leur phrase a été très claire, ils payent très très bien. Donc, ils m'ont confirmé que tous les dentistes piégés aux États-Unis avaient payé. Donc, je leur ai dit, les 500. Est-ce qu'ils m'ont bluffé? Est-ce qu'ils m'ont pas bluffé? J'en sais rien. Je sais qu'en tout cas, dans les adresses que j'ai pu collecter, 22 de ces adresses, des gens avaient payé. Parce que 22 de ces adresses me permettaient de télécharger le fichier de déchiffrement. 22 fois 5, on va troller un petit peu. Ok Google, 22 fois 5000, ça fait combien? Bien sûr, c'est au moment où j'utilise Google Home que ça ne fonctionne pas. Non, c'était un troll. Voilà, ça vous donne une petite idée du montant.
Ah, mais tu l'as débranché ton Google Home?
En fait, oui, je coupe tout le temps le micro, parce qu'en plus, ce Google Home-là, je vais vous l'avouer, je l'utilise que sur un téléphone particulier, parce que je ne veux pas que mes autres informations fuitent sur l'un des téléphones que j'utilise tous les jours. Quoi. Donc voilà, paranoïa quand tu nous tiens. Parce que moi, j'adore Google Home, hein, je vais être très clair avec vous, je trouve ça tellement rigolo de lui dire des gros mots.
Ouais, tout à fait. Il réagit drôlement à ce genre de choses-là. Fort intéressant que, de toute façon, les dentistes sont des clientèles... très payantes parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent. Fait que généralement, ils ne se soucieront pas de s'embêter avec ça. Ils vont payer immédiatement. Puis c'est aussi une façon que ces pirates-là ou ces mécréants-là ont trouvé pour se faire payer rapidement parce que on suppose que la personne du Bangladesh, elle est ce qu'elle est. Elle n'a pas d'argent pour payer. Fait que, donc, c'est pas intéressant du tout. Mais quand on va s'attaquer à des cibles qui ont de l'argent et qui n'ont pas de temps à perdre non plus à négocier, puis. Ils vont aller directement.
On est clairement. Ah ouais, mais t'as complètement raison. On est clairement avec des hommes d'affaires en face. Hein. C'est impressionnant. Hein. Déjà, donc, j'étais très étonné déjà parce que les mecs m'ont répondu quand je le voulais. Je m'explique. Quand je commençais à envoyer bot, ça me fait marrer. Je trouve ça tellement con comme question. Human or bot, j'ai vraiment pris des horaires sur un fuseau horaire de 24 heures sur plusieurs jours. quand je les voyais converser avec les gens, on était vraiment sur plusieurs jours, complètement fou. Donc, il y a tout le temps quelqu'un qui répond. Alors, attention, il ne vous répond pas dans la minute. Il ne vous répond pas dans les 2-3 minutes. Ça prouve aussi que ce n'est pas un bot. Un bot, il vous répondrait quasiment dans la seconde. Il est programmé pour ça. C'est Google Home qui vient de me dire que c'était une erreur. Donc voilà, non, on a vraiment affaire à des humains, des vrais hommes d'affaires, parce qu'il y a eu, j'ai deux exemples, j'en ai que deux exemples, hein, et c'est qu'à mon petit niveau. J'ai deux exemples où ils ont baissé les prix. Ils ont fait moins 10%. What the fuck? J'ai pas compris. Ils ont fait moins 10%. Alors, c'était une période, mois de juin, dans tous les deux cas. Est-ce que c'était un moyen aussi de viser des grosses boîtes qui en ont peut-être parlé ensuite, deux entreprises au Brésil? Est-ce que ça a été un moyen pour eux de peut-être se faire de la promo où ces grosses boîtes vont dire « Ah ben nous, ils nous ont fait un prix ». Vous voyez, voilà, j'en sais rien. Là, c'est vraiment de la supputation de mon côté. Ce qui m'a fait délirer aussi, c'est qu'ils ont clairement dit qu'ils n'aimaient pas le terme « Sodino Kibi ». J'ai cru qu'on était avec Alexa qui n'aime pas son nom. Là, ils m'ont dit « Ah ben non, c'est des chercheurs qui ont trouvé ça ». Très certainement à cause d'un mot qu'il y a dans notre code. Et nous, on trouve pas ça très beau. Ben voilà, les mecs avaient une conversation. À un moment, ils disaient « C'est fou, c'est complètement fou ». Donc, mais non, mais par contre, ils sont sans pitié. Alors là, le côté « je pleure », le nombre d'insultes qui se prennent dans la tronche. Il y a même un moment très intéressant parce que on a la Corée, beaucoup de Russes, beaucoup de Coréens, beaucoup d'Asie. J'ai eu beaucoup d'Allemands aussi, beaucoup d'Amérique du Sud. Mais là, moi, je ne me base pas aux chiffres des grands professionnels de la cybersécurité qui ont pu voir ça avec leurs outils antivirus, par exemple. Moi, je ne me base qu'à ce que j'ai vu et lu. Et les Russes ont le gros mot facile. Oh, il y en a un, il s'est lâché. Mais, et en fait, ça n'a pas répondu. Ça a simplement banni. J'espérais tant, en fait, avec le vocabulaire utilisé, de tenter vraiment un environnement des malveillants. Quel pays, quelle orientation. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un beau vocabulaire, avec des points, des virgules. Ça, c'est intéressant. Mais pas tout le temps. Hein. Pas tout le temps.
C'est déjà particulier. Ils sont donc pas très jeunes. Ils sont déjà plus âgés, qui savent écrire un petit peu.
C'est ça qui est intéressant. C'est que comme ils sont plusieurs, avec une vraie hiérarchie, celui que j'avais en conversation, à un moment, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un call center basé quelque part, je ne sais pas, moi, en Afrique du Nord, à l'île Maurice, qui ne fait que répondre à des gens, comme si je l'appelais pour dire, voilà, ma télé ne fonctionne plus, comment je fais pour la réparer? C'était, voilà, cet élément-là intéressant, sauf que quand il, lors d'une conversation, il dit très clairement, justement, avec ce gars qui voulait faire les traductions, on vous répondra quand le développeur sera là, c'est lui qui vous répondra. C'était très intéressant. Enfin, voilà, j'ai plein d'autres exemples, mais je les garde parce que c'est intéressant de continuer à les suivre. Quand même.
Ouais, c'est ça, il ne faut pas tarir la source de toute cette information. Très intéressant que ces temps sont tout à fait, en apparence, aussi bien organisés que, peut-être mieux organisés que certaines corporations ou sociétés que je connais. Donc, tout ça est fort intéressant de voir que ces gens-là ont fait vraiment un business, mais bien monté.
Oui, tu as complètement raison. Hein. Ils sont clairement mieux organisés que les entreprises. La preuve, déjà, eux, ils n'acceptent pas les liens. Déjà, eux, ils n'acceptent pas les fichiers joints qui pourraient être exécutables. Et puis ensuite, ils sont plus efficaces que les entreprises. Ils piègent les entreprises.
Ben, on comprend, puis ça c'est un peu la difficulté parce que je le vis dans différents de mes mandats, c'est que les entreprises et sociétés vivent avec des humains avec qui ils doivent composer quotidiennement et ne peuvent pas leur enlever des privilèges comme ça et ci et ça. Et ça, malheureusement, crée des problèmes. On l'a vu au Québec avec la réaction de Desjardins, entre autres, que suite à la fuite, ils ont banni les clés USB, par exemple, ont mis certaines autres mesures en place qui, normalement, sont très impopulaires, qui, normalement, sont très difficiles à faire passer les entreprises. Mais ces entreprises de malveillants-là font juste, c'est le business, on le fait. Si tu n'es pas content, ben travaille pas pour ce business-là, puis va ailleurs. Mais c'est un peu implacable comme attitude, mais c'est le fait que tu ne vois jamais réellement la victime. C'est juste devant un écran, il y a une forme d'insensibilité qui malheureusement s'installe et ce qui rend beaucoup plus difficile l'empathie et où ultimement facilite le travail de ces gens-là. Dire, devant un écran, tu peux m'insulter, ça me fait pas beaucoup mal, là, mais en vrai, c'est beaucoup plus désagréable de recevoir des insultes.
Ce qui est intéressant, ce que tu me dis avec Desjardins, là, où ils ont donc banni les clés USB, ils ont durci le ton un petit peu pour la sécurité. Attention, à trop durcir le ton, c'est à trop regarder dans un seul sens. Bannir toutes les clés USB, ok. Les cartes SD aussi, alors. Hein. Est-ce qu'on a toujours accès au port de la souris, etc., etc. Il y a plein de petits éléments qui font dire qu'à force de regarder toujours dans une direction, parce que là, on est clairement dans une cybersécurité de panique, et de vite, réparons. Hein. Malheureusement, en face, et là, on prend l'exemple de ces gars qui sont derrière ce ransomware, j'arrive pas à prononcer son nom correctement, mais toujours Sodilokib. voilà, eux, environnement très clairement qu'ils attaquent. Hein. Ils environnement très clairement celui qui vient leur causer. Donc on se doute qu'ils réfléchissent mûrement, efficacement, et qu'ils trouveront peut-être une autre porte d'accès. Donc c'est pour ça que à trop bloquer aussi, voilà, on n'arrête pas de dire l'humain. Hein, voilà, quels sont les meilleurs conforts pour toi, le commercial, pour toi la secrétaire, pour toi l'informaticien de l'entreprise. Il faut se mettre autour d'une table. Hein. Ok, t'es le patron. Qui fait appel à son équipe de cybersécurité, qui s'est fait taper sur les doigts, qui va faire appel à des extérieurs, qui, eux, viennent chercher le mandat. Parlons, hein, essayons de brasser aussi des gens autour d'une table. Celui qui n'y connaît rien a aussi souvent d'excellentes idées. Ça, c'est une personne qui en connaît trop.
Tout à fait. De toute façon, c'était les clés USB ont été une mesure forte dans le cas Desjardins parce que c'était facile et ça frappe l'imaginaire. Cela étant, je suis tout à fait d'accord. Puis les approches que je propose sont beaucoup plus modulées et qui tiennent compte de l'humain dans la réflexion parce que puis ça fait longtemps. Si on bloque trop, l'humain va contourner, va créer pire. Donc, on se crée plus de problèmes en bloquant trop. Il faut juste trouver la zone qui permet aux gens de faire leur travail, parce que l'objectif, c'est ça que les gens veulent faire, et d'arriver de façon sécuritaire le faire correctement. Donc, puis même ma phrase que je dis beaucoup ces temps-ci, la sécurité, ce n'est que de bien faire les choses. Et ça l'arrête là. Puis bien faire les choses, ça ne veut pas dire tout bloquer, ça veut dire bien faire les choses.
Je n'ai rien d'autre à dire. C'est beau, ces paroles.
Ouais, des fois, je petit élan poétique comme ça.
Tu parlais des employés, c'est ce que ça vient de me faire tilt là. Hein, vous savez, cet ancien employé d'Amazon qui a tapé dans la base de données de Capital One, ils ont quand même découvert quelques jours plus tard, lors de l'enquête, qu'en plus, elle avait fait trouver le moyen aussi d'utiliser un petit peu les machines de l'environnement pour faire de la crypto-monnaie. Hein. Donc, on se dit que l'employé qui veut le mal, à ce niveau-là, c'était pas mal. Hein.
C'est très difficile à repérer de toute façon l'employé qui veut faire du mal. C'est tout le défi. Dans la panique qu'il y a eu au Québec, c'est-à-dire que c'est tous des employés internes qui ont fait fuiter de l'information, soit de façon malicieuse comme Desjardins ou de façon non, comme à l'Agence du revenu, où c'était un employé qui voulait juste travailler à la maison, donc elle, c'était pas avec de la malice qu'elle faisait, mais il demeure qu'elle a quand même contrevenu aux règles de l'entreprise et elle a fait fuiter quand même, sortir des murs de l'entreprise, une quantité assez substantielle d'informations sensibles. Mais bref, l'humain étant ce qu'il est, il faut le tenir dans l'équation. Et comme tu mentionnais, faut même les gens hors du domaine ont des idées très, très valides. Et j'aime beaucoup les avoir dans les conversations aussi. Là. Bon, bref, ça fait le tour de ces nouvelles de rentrée qui sont quand même assez substantielles et très intéressantes. Ça met la cadence pour le restant jusqu'à la fin de l'année.
C'est ça.
On va, en tout cas, nous, on se revoit en vrai à quelques reprises. Hackfest, c'est là cette année?
Oui, Hackfest. Alors, pareil, hein, pour des problèmes administratifs, je ne sais pas si je vais pouvoir venir véritablement. Mais non, ça c'est pour faire paniquer parce que j'ai proposé 2-3 conférences. Il y aura, non, et puis au Hackfest aussi, il y aura pour la troisième année, le confessionnel de Zataz. Toujours cette idée des gens qui ont trouvé une fuite de données, je ne sais pas moi, via Google ou autre, qui n'osent pas contacter l'entreprise. Du coup, comme on le fait en France, ils me transmettent l'information. Et puis moi, et nous d'ailleurs, on la transmet directement aux entreprises. L'idée, c'est de faire une espèce de passe-plat. On ne s'en sert pas, on ne la commercialise pas, on ne la revend pas. On veut juste être des cyber-citoyens qui donnent un coup de main à des gens qui pour X raisons, ne veulent pas rentrer en direct. Donc, il y aura déjà ça. Et puis peut-être une ou deux conférences, en tout cas on va voir, et puis essayer aussi d'attirer mes collègues journalistes canadiens, et bien pour parler, pour parler aussi de leur sécurité, mais aussi de cette cybersécurité qui évolue à grands pas, parce que je trouve aussi que nos collègues en parlent de plus en plus, et ça c'est chouette, mais en parler d'une manière un petit peu plus, comment dire, pas avec des détails, mais du moins qui puisse rassurer les gens en leur expliquant qu'une fuite de données, comme on le fait nous avec notre podcast, hein, tu m'as dit, bah voilà. Donc il y a plein de petits éléments, et après il y aura d'autres possibilités de conférences, d'ateliers, on en parlera par exemple avec le FIC, avec ce genre de sortie, là ça sera en Europe, et puis peut-être effectivement Zataz au Canada, on en reparlera.
Qui sait, Zataz au froid, dans le Grand Nord.
Oui, c'est ça. Alors déjà que je ne suis pas grand, mais vous imaginez à moins 40, on ne va plus jamais me voir sous la neige.
Ah, c'est pas si pire.
Donc voilà, non, bon là on rigolait, mais toujours est-il que à la prochaine, je vous embrasse.
Bonne rentrée.